Bonsoir à tous, à tout le monde. Donc là, je vais vous présenter un exposé sur les révoltes et montées ouvrières dans les années 1930 dans la Caraïbe. Donc la Caraïbe est un arc de cercle sur lequel se suivent un grand chapelet d'îles. Donc ça part du Venezuela, l'île de Margarita jusqu'aux Bahamas, en passant par Trinidad, Haïti, Saint-Domingue, Cuba. Donc c'est pour avoir une idée de ce qu'est la Caraïbe. Donc les îles des Caraïbes étaient à l'époque des colonies britanniques, françaises, hollandaises. Leur population, dans sa grande majorité, est formée de Noirs déportés d'Afrique à l'époque de l'esclavage. La Caraïbe fait partie des Amériques. Il s'agit plus précisément de l'Amérique centrale. Donc les années 1930 dans la Caraïbe sont marquées par une série de révoltes, de manifestations de la population et de grèves de la classe ouvrière. Ces événements ont lieu dans toute la Caraïbe, de Belize en passant par la Jamaïque, les Bahamas, Saint-Kitts, Nevis, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Vincent, Trinidad, jusqu'à Guyana britannique. L'explosion sociale commença à Belize. Avant Belize, on l'appelait l'Honduras britannique, en 1934. Par une petite île à l'est de la Caraïbe et tout près de la Guadeloupe. Saint-Kitts en 1935. Et dans la même année, il y a eu Saint-Vincent, la Martinique, puis en 1936, Sainte-Lucie, suivie de la Barbade, ensuite Trinidad et Tobago en 1937 et Jamaïque en 1938. En 1938 et 1939, les grèves et les troubles sociaux éclata aussi à la Guyane britannique. Donc pourquoi ces explosions sociales se sont-elles produites à peu près au même moment dans les colonies de la Caraïbe? Donc les facteurs qui ont contribué à faire émerger ces révoltes sociales et ouvrières sont divers, comme cela s'est produit en Europe et un peu partout aussi dans le monde. Il y a tout d'abord eu la crise boursière de 1929 qui a plongé une bonne partie de la planète dans le chaos économique. Cela a causé la faillite de nombreuses banques. Des millions d'ouvriers se sont retrouvés au chômage. Les pays de la Caraïbe n'ont pas été épargnés par cette crise. Les travailleurs et la population pauvre en ont ressenti les conséquences, notamment par le bas niveau des salaires et l'augmentation du chômage. De nombreux paysans, fuyant la misère de la campagne, ont migré dans les villes à la recherche d'un emploi. Puis, suite à la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats venus de la Caraïbe ont été déçus et gris par le traitement discriminatoire qu'ils avaient connu hors de leur pays et le manque de reconnaissance à leur retour par les autorités coloniales de leur pays. C'est une période où de nombreux travailleurs qui avaient émigré en Amérique latine sont retournés dans leur pays. Ils espéraient retrouver du travail après l'achèvement du canal de Panama en 1924. De plus, la conscience d'être discriminé en tant que noir et gens de couleur fut renforcée par l'invasion italienne de l'Éthiopie en 1935. Quelques groupes, regroupant une bonne partie de la population, avaient levé des fonds en solidarité avec l'Éthiopie. Ce conflit a été vu en termes de conflit noir-blanc. Enfin, l'exemple des travailleurs de Russie qui ont réussi à prendre le pouvoir et la propriété des capitalistes, avait donné l'espoir à de nombreux travailleurs et à des militants du monde entier. Donc, comment ce prolétariat il s'est développé dans la Caraïbe? Donc, le capitalisme s'est développé avec les révolutions industrielles qui ont débuté en Angleterre au XVIIIe siècle. Et ces révolutions industrielles ont permis à la classe dominante, la bourgeoisie, d'accumuler des richesses de par le monde grâce à la conquête de nouveaux territoires. Mais aussi, elle s'est enrichie en massacrant, pillant exploitant des terres et des populations. Karl Marx, qui est un militant communiste révolutionnaire, disait « Le capital vient au monde dégoulinant de sang et de saleté par tous les pores de la tête aux pieds. » C'est ainsi que les bourgeoisies européennes les plus puissantes ont soumis l'ensemble du monde à l'exploitation et à sa domination, et la Caraïbe fait partie de ces territoires. Au bas de l'échelle sociale, on trouve les Noirs. Ils furent principalement les descendants des Africains, les descendants d'esclaves. Ils furent exclus de la vie politique et ils étaient en général pauvres, sans éducation. Les classes supérieures, blanches, et les classes moyennes méprisaient leur mode de vie et leurs pratiques culturelles. Donc c'était la structure de base de la société des années 1930. Les capitalistes dans la Caraïbe, en exploitant férocement les travailleurs et la population des Antilles, ont en même temps créé les conditions favorisant l'émergence de rébellions. Les conditions de vie et de travail des ouvriers étaient effrayantes. À Trinidad, par exemple, les travailleurs vivaient dans des baraques sans sanitaire, sans eau potable. Il y avait devant chaque porte des résidents de citernes d'eau à boire, pleines de bestioles de toutes sortes et de larves de moustiques. Les familles pauvres avaient à peine de quoi se nourrir. Les salaires étaient dérisoires. Aux Antilles françaises, c'était aussi la même misère. La crise économique qui a secoué les États-Unis en 1929 a eu des répercussions sur les importations et les exportations des cultures telles que le sucre. À Belize, son économie était basée sur l'exportation de la production forestière. Le salaire journalier était de 50 cents. À Saint-Kist, le patron de la plantation de Buckley a décidé de diminuer les salaires par tonne de canne à 8 pennies. En 1935, la population de la Jamaïque, qui était de 1 121 823, il y avait parmi eux 404 000 travailleurs. Donc, ils étaient répartis dans plusieurs secteurs. Donc, il y avait 100 000 dans la banane, ce qui représentait 43 %, 41 000 dans le sucre, à peu près 18 %, 29 000 dans les travaux de route et de construction, 13 %, 6 000 qui travaillaient sur le bord de mer, 3 %, et le reste, les 55 000, étaient des travailleurs divers et des chômeurs, ce qui représentait à peu près 23 % de la population. Dans de nombreux cas, les salaires étaient restés les mêmes depuis la Première Guerre mondiale et quelquefois depuis le 19e siècle, mais le problème des salaires était plus critique par la nature précaire de l'emploi. L'ébullition s'est propagée parmi les ouvriers, mais aussi chez certains intellectuels dans les années 30, parce qu'il y avait l'influence des idées socialistes et nationalistes. Des journaux comme Le Peuple, Trinidad ou le Jamaica Labour Weekly de Buchanan diffusaient ces idées. Le Jamaica Labour Weekly était dirigé par Buchanan. Ce dernier était marxiste. Il a tenté avec son groupe d'organiser les travailleurs et d'élever leur niveau de conscience politique en Jamaïque. Il y a eu aussi le développement des idées de Marcus Garvey. Donc ces idées ont joué un rôle de la nouvelle prise de conscience des Noirs, de leur dignité d'homme, de l'estime de soi à travers le Universal Negro Improvement Association. Donc c'est l'association universelle pour le progrès des Noirs. Il prôna l'idée d'un retour en Afrique et cette idée fut relancée au lendemain de la Première Guerre mondiale par Marcus Garvey. Garvey était d'origine jamaïcaine. Il exalta la couleur noire, source de force et de beauté et non d'infériorité. Face au mépris affiché par le colonialisme contre les Noirs, mépris qui suivait les deux siècles d'esclavage, les Noirs entendaient un autre discours venant d'un des leurs. La popularité de Garvey fut immense. Marcus Garvey est d'ailleurs officiellement déclaré comme héros national en Jamaïque. Il invitait les Afro-Américains à fuir le continent où ils étaient opprimés pour retourner dans leur pays d'origine, l'Afrique, et contribué à y fonder une nation africaine. Gavé ayant créé l'UNIA, qui est l'Universal Negro Improvement Association, donc c'est une association universelle pour le progrès, et il se nomma aussi en 1921 président provisoire de l'Empire d'Afrique. Donc, il dota cet empire d'un drapeau noir, rouge et vert. Noir pour la couleur de la race, rouge pour son sang et vert pour ses espérances. Mais Garvey voulait un capitalisme noir pour concurrencer le capitalisme des Blancs. Et c'est bien là que nous sommes en opposition totale avec la théorie de Marcus Garvey, bien sûr. Cependant, Garvey a su s'appuyer sur le sentiment des masses noires opprimées. Son mouvement fut le premier mouvement international noir. Son journal « The Negro World » était vendu dans le monde entier, dans toute la Caraïbe, l'Amérique latine et jusqu'en Afrique, à Ghana et au Nigeria notamment. Avant les années 1930, les travailleurs avaient tenté de s'organiser en créant des syndicats. Par exemple, les premiers syndicats ont été créés en Jamaïque à la fin du 19e siècle par les cigariers et les typographes. En Jamaïque, la révolte ouvrière a explosé en janvier 1935 et la loi ne permettait pas la formation de syndicats. La première organisation populaire fut créée à Saint-Kitts-Nevis, qui est une association universelle de bénévoles. Et l'association publiait un journal, Union Messenger, en 1921, et ce journal rapportait les problèmes et les demandes des travailleurs de la Jamaïque et de Trinidad. Les 30 premières années de ce siècle furent une bonne période pour organiser les travailleurs en Jamaïque, mais aucune organisation durable n'en a résulté. La loi légalisant les syndicats de la Jamaïque, et qui s'est d'ailleurs appliquée dans les autres colonies britanniques, a été adoptée le 25 octobre 1919. Elle ne garantissait pas les droits légitimes de piquet de grève pacifique ni l'immunité pour les actions des grévistes. Le plus résistant des premiers syndicats, qui est le Jamaican Trade and Labor Union, qui est un syndicat des commerçants et des travailleurs de la Jamaïque, avait une existence instable. C'est-à-dire que ce syndicat a été fondé en 1907, il a disparu en 1909 et il est réapparu en 1918 dans un meeting organisé par un militant communiste de Suriname qui s'appelle Otto Huiswood. Et ce militant disait que ce syndicat avait à peu près 600 membres. Ces syndicats jouèrent un certain rôle à la Jamaïque jusqu'à la moitié des années 1930. Durant les révoltes dans les colonies, les alliés de l'État, les compagnies pétrolières, du sucre, de bananes, du cacao, les commerçants et les propriétaires terriens faisaient pression sur le gouverneur pour que leurs intérêts soient défendus. Pour pouvoir continuer à exploiter et faire des profits, ils exigeaient de l'État colonial une armée. Lorsqu'ils estimaient que les forces de police locales ne suffisaient pas pour assurer leur sécurité, les troupes coloniales étaient envoyées dans les colonies pour protéger les intérêts des possédants. Au mois de février 1935, en Martinique, les ouvriers de la canne à sucre ont fait grève pour protester contre les attaques patronales sur les salaires. Les usiniers voulaient réduire les salaires des coupeurs de canne de 20 à 30%. Ils firent une grande marche sur Fort-de-France, celle qu'on a appelée la marche de la faim. Le 19 juin 1937, à Trinidad, les grèves éclatèrent dans les champs pétroliers. La grève s'est étendue le 22 juin aux régions de culture sucrière et dans la capitale, Port-au-Spain. La grève s'est généralisée sur l'ensemble de l'île. Les travailleurs réclamaient des augmentations de salaire. Face aux forces de l'ordre, les travailleurs armés de coutelas, de bâtons et de pierres avaient coupé les lignes téléphoniques. Dans les plantations du sucre, 700 personnes armées de bâtons envahissent la plantation de Waterloo et l'ont fermée. On était presque dans la grève insurrectionnelle. Les policiers ont fait feu, ont tué une personne et en ont blessé deux. C'est en mai 1938 que se produit le premier affrontement majeur qu'il y eut sur une plantation que venait d'acquérir une entreprise britannique, Tate & Lyle, à la Jamaïque. On venait d'y commencer la construction d'une nouvelle raffinerie de sucre et les ouvriers affluaient dans l'espoir d'y trouver un travail. Les ouvriers du bâtiment exigeaient alors une augmentation de salaire de 4 dollars par jour qu'on leur refusa. Les ouvriers se mirent en grève, occupant l'ancienne raffinerie et brûlant quelques champs de canne. La police britannique intervint, tuant 4 ouvriers et blessant 25 autres par balle. Les travailleurs de Kingston, qui est la capitale de la Jamaïque, ripostèrent en descendant dans la rue, partis des docks. La grève s'étendit aux principales villes du pays, jusqu'aux employés du commerce de détail et aux hôpitaux de Kingston. Fin mai, le gouverneur de la colonie fut pris de panique devant ce qui était devenu une grève générale, insurrectionnelle. Il décréta l'état d'urgence et demanda le soutien de la marine de guerre britannique basée aux Bermudes. Petit à petit, les travailleurs reprirent le travail, mais pas avant que la majorité d'entre eux n'ait obtenu des augmentations de salaire. Les patrons et les autorités coloniales ont compris qu'il était important de pouvoir négocier avec des dirigeants syndicaux afin d'éviter un retour de nouvelles mobilisations ouvrières. Quand c'était possible, les employeurs passaient des accords avec les leaders syndicaux, comme Bustamante en Jamaïque. Dans le cas où ces dirigeants syndicaux n'étaient pas suffisamment dociles, ils les réprimaient. Ces mouvements des années 1930 de la classe ouvrière dans la Caraïbe sont riches d'enseignements. Ils ont montré la capacité de la population laborieuse à se battre face à l'oppression capitaliste et coloniale. Le colonialisme a certes créé des frontières entre ces pays, petites îles qui sont séparées par quelques kilomètres de mer et qu'on peut suivre à vue d'œil. Cependant, la zone Caraïbe peut devenir l'étincelle qui déclenchera le renversement de l'oppression capitaliste. Si les idées nationalistes dans les années 1950 et 1960 ont permis à certaines îles d'accéder à l'indépendance, elles n'ont pas pour autant libéré les travailleurs de ce système d'exploitation. Quant aux travailleurs des îles qui demeurent sous la domination d'une puissance coloniale, ils n'en sont pas pour autant débarrassés. Aucun gouvernement ne peut offrir aux exploités de la région une solution à leur oppression sociale et raciale. Pour conclure dans cet exposé, nous n'avons pas pu tout dire, mais il faut savoir que dans toutes les îles de la Caraïbe, systématiquement, il y eut des grèves très larges, des poussées de mécontentement, des mouvements souvent réprimés par les troupes coloniales anglaises, françaises, hollandaises. On les retrouve aussi bien dans les grandes îles comme Cuba, la Jamaïque, Trinidad et Tobago, Haïti et Saint-Domingue, et dans les petites îles Guadeloupe, Martinique, Saint-Kitts, Dominique, Antigua, Saint-Vincent, la Barbade, Grenade, les Bahamas, Curaçao, et de même sur la côte du continent sud-américain, Venezuela, Colombie, Belize, la Guyane, le Suriname et la Guyane française. Les expériences des révoltes et des grèves ouvrières ont montré qu'il existait une classe ouvrière dans la Caraïbe. Une classe ouvrière en très grande majorité noire et indienne d'origine hindoue. Ces grèves et ces révoltes ont renoué avec les traditions ouvrières de lutte qui avaient commencé à la fin du 19e siècle. Cela est un fait d'une extrême importance pour les travailleurs et les militants du mouvement ouvrier. La classe ouvrière des Caraïbes, il ne faut pas oublier, est aussi une classe ouvrière américaine. Des Amériques aux portes de la plus grande puissance impérialiste du monde, les États-Unis. De ce fait, ces travailleurs pourraient, dans l'avenir, jouer un rôle non négligeable s'ils parvenaient à se lier d'abord à la classe ouvrière noire des États-Unis qui se compte par millions. En tant que Noirs, les travailleurs des États-Unis et des Caraïbes recèlent une force révolutionnaire potentielle considérable due à leur histoire passée commune. Quand la remontée des luttes sociales se fera dans cette région, les travailleurs noirs des Amériques trouveront, nous en sommes sûrs, les chemins de la contagion révolutionnaire et de leur unité. Ils pourront alors mieux trouver le chemin de l'union avec leurs frères de classe blancs. Ils poseront ainsi les instruments nécessaires et indispensables pour paver la route des révolutions ouvrières. C'est pourquoi nous militons, à terme, nous, petit groupe révolutionnaire antillais, nous préparer aux futures révolutions sociales. Nous savons qu'elles éclateront. Le problème, c'est de savoir quand. En tout état de cause, nous devons nous y préparer sérieusement, car l'histoire peut être très lente, mais elle a aussi des accélérations fulgurantes. Et nous ne devons pas les rater. Merci à tous d'être venus et d'avoir prêté écoute à mon exposé.
D'abord, moi, je voudrais dire que merci à la camarade parce que j'ai appris plein de choses qu'on ne sait pas hein, sur les luttes de la classe ouvrière et ça fait plaisir de pouvoir entendre des choses qui nous rendent fiers de notre classe. Bon, alors, on va passer au moment de la discussion. Si vous avez des questions, des interventions, vous levez la main, on vous passera le micro. Tout était très clair. Bon, mais il y a quand même un camarade qui a quelque chose à dire. Vas-y.
Bon, alors, je n'étais pas au début de l'exposé, donc je ne connais pas exactement comment ça a commencé. Toutefois, il faut savoir que dès que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il y a eu des problèmes, notamment avec la population locale qui n'était pas noire, mais qui était indienne, bien entendu. Et les Espagnols, avec un entrain touchant, voulaient transformer cette population en esclaves, ce qui n'a pas eu beaucoup de résultats réels, sauf du côté, je crois, du Paraguay, quelque part par là, où ce sont des jésuites qui ont créé un état spécial, mais religieux à la fois, et en même temps, en faisant croire avec les croyances d'époque, ils ont développé une culture relativement importante. Et les Espagnols, s'apercevant que les Indiens étaient tout à fait solidaires des jésuites pour à la fois le travail, la discussion, les croyances et compagnie, ont voulu s'emparer de cet état. Donc les jésuites, parmi eux, avaient d'anciens militaires. Ils ont expliqué aux indigènes de coin comment ils pouvaient se défendre par rapport aux Espagnols. Et l'armée espagnole qui s'était attaquée théoriquement sans problème, soi-disant, a été battue et a pris une raclée sévère. Donc, ils sont repliés, ils se sont renforcés, mais alors très fortement, et ils ont pris une deuxième raclée la deuxième fois. Alors, c'est là que le Vatican est intervenu pour interdire aux jésuites de soutenir les indigènes contre les troupes espagnoles. Alors, évidemment, c'était le Paraguay actuel qui n'a pas changé par rapport aux autres pays, au prime, évidemment, le peuple, comme tout peuple classique. C'était qu'à l'époque, l'oppression était beaucoup moins forte, énormément moins forte d'ailleurs. Par la suite, il fallait se décider si les Indiens d'Amérique avaient une âme ou pas. Donc, il y a eu un congrès en Espagne, c'était à Valladolid, je crois, si mes souvenirs sont bons, et dans lequel les envoyés du pape on devait décider si les Indiens avaient une âme. Évidemment, on leur présentait les crucifix, les choses comme ça. Pour eux, c'était rien du tout. Par contre, ils avaient des parures de leur dieu à eux. Et quand on a voulu leur supprimer leurs parures, évidemment, les Indiens qui étaient là, ils n'étaient pas très nombreux, ils devaient être une dizaine peut-être. Ils se sont rebellés. Et puis, au bout d'un moment, les gars du pape ont décidé, ils ont une croyance. Donc, à ce moment-là, ils ont une âme. Mais comment trouver des esclaves ? Et c'est là que le Vatican a décidé, bon, bah, alors, à ce moment-là, les esclaves ne pourront être que noirs. Alors il faut savoir que donc l'esclavage a été décidé, l'esclavage noir, j'entends, a été décidé par le Vatican, à un congrès. Donc il ne faut pas croire que ça a été comme ça une décision inutile. C'est-à-dire il y avait une volonté à la fois de l'Espagne de marquer le coup et puis de montrer sa volonté de s'enrichir à tout va. Cette façon de s'enrichir a plutôt détruit l'Espagne, puisque tous les travailleurs qui travaillaient en Espagne s'apercevaient qu'on pouvait devenir très riche, il suffisait de traverser l'océan et on pouvait récupérer de l'or, etc. Tant et si bien que, comme c'était l'empire de Charles Quint, Carlos Cinco en Espagne, les travailleurs, évidemment, n'étaient plus là pour travailler. Ils préféraient aller à la conquête de l'Amérique. Et c'est... Ah oui. Non. Alors. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Bon, enfin, d'accord. Et alors, évidemment, l'esclavage s'est généralisé avec la traite des Noirs, évidemment, systématique. Tous les pays européens ont participé à cette traite et ont fait du trafic, évidemment, entre l'Afrique et... ça rapportait énormément d'argent. C'était la fortune, évidemment, de Saint-Malo, de Nantes, de Bordeaux, etc. etc. Bon. Mais les villes anglaises, c'était pareil. Les autres cités, c'était pareil à peu près partout. Donc, c'était un gros problème, etc. L'esclavage vient de là. Par la suite, évidemment, il fallait absolument créer l'oppression systématique.
Les camarades, ils parlaient de révolte dans la Caraïbe dans les années 30.
Ah, d'accord.
Si tu veux, on remonte à Charles Quint, mais...
Voilà. Bon, alors, donc...
Le temps de faire tout,
voilà. Alors, bon, pour les années 30, évidemment, là, évidemment, vous avez entièrement raison, vraisemblablement. Le signal pour la suite des événements par suite, il y a quand même eu aussi les pressions aux Antilles françaises, c'est-à-dire Guadeloupe et Martinique, parce qu'à la suite à l'appel de Gaulle, c'était donc en mai 1940, beaucoup d'Antillais ont voulu rejoindre de Gaulle. Or, le gouverneur de l'époque, c'était un amiral français et qui a systématiquement fait couler tous les bateaux antillais. Bon, mais malgré tout, il y a eu des Antillais qui sont venus.
Bon. Je voudrais savoir s'il y a eu un soutien, enfin si en Europe, la classe ouvrière était au courant de ce qui se passait en Caraïbes et s'il y a eu un soutien de leur part. Même s'ils ne pouvaient peut-être pas se déplacer, mais s'ils ont apporté leur soutien d'une façon, de quelque façon que ce soit.
Moi, comme tu as rappelé à quel point justement le sentiment d'appartenance à une même couleur avait été fort, s'il y avait eu des rapprochements entre ces différents mouvements, sur les années 30, en fait, s'il y avait eu si les différents mouvements ouvriers des îles des Caraïbes s'étaient rapprochés, ce qui en était sorti, quoi.
Oui, pardon, excuse-moi. Alors voilà, donc pour répondre à ta question sur sur est-ce qu'il y avait un soutien des travailleurs, des syndicats, des autres pays d'Europe. Ben, il faut savoir qu'à cette époque, c'est pas seulement dans la Caraïbe qu'il y a eu des mouvements, hein, qu'il y a eu des grèves, qu'il y a eu des révoltes, des mouvements très importants. Par exemple, en 1936, on connaît bien les congés payés en France, tout ça. En Europe, ça a beaucoup bougé. En Espagne aussi, c'est pareil, dans les années 30. Donc, dans les années 30, en fait, c'est une période où il y a eu une montée des révoltes et aussi des grèves, des travailleurs, un peu partout dans le monde, parce que les gens, en fait... Il y avait le problème de la crise économique qui, et d'autres conditions de travail des travailleurs qui faisaient que finalement, c'était un mouvement en fait un peu général, c'est-à-dire que c'était un peu partout dans le monde. Concernant ta question sur les rapprochements, c'est ça, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des syndicats qui se sont rapprochés d'autres syndicats. Bon, en fait, par exemple, il y a eu des représentants syndicaux de Trinidad et de Jamaïque, par exemple, qui ont été à Saint-Kist pour essayer d'organiser les syndicats là-bas. Enfin, leur donner des conseils. Enfin, il y avait quand même des échanges entre les représentants syndicaux de la Caraïbe. Donc il y avait aussi participait par exemple, bon, c'est arrivé qu'ils participent à des meetings de soutien de travailleurs dans d'autres pays de la Caraïbe, mais il n'y a pas eu de mouvement d'ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu par exemple une grève commence par exemple le 19 juin 1935 dans tel pays et tous les autres en cascade font grève dans la même semaine ou dans la même période. Il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire que c'était des grèves qui étaient séquencées en fonction, en fait, c'est en fonction des travailleurs, quoi, en fonction des sentiments des travailleurs, de l'oppression qu'ils subissaient et qui font qu'à certains moments, ils ont réagi à tel moment ou à tel autre moment. Mais ce n'était pas uni. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Ça va me revenir. Oui, le seul mouvement uni et relié avec des structures, etc., ça a été, elle l'a dit, le mouvement de Marcus Garvey. Bon, avec ses côtés positifs, celui-là, et aussi, mais avec une idéologie qui était une idéologie en fait nationaliste noire, pro-capitaliste noire. Mais quand on étudie un peu l'histoire de ces mouvements, on s'aperçoit que c'était vraiment le mouvement. On est très surpris, alors qu'il n'y avait pas ni Internet, ni la télé, ni les médias qu'on a actuellement. Qu'on retrouve le journal de l'UNIA, de Marcus Garvey, The Negro World, qui sortait en Jamaïque, donc le monde noir, qui était vendu au Panama, qui était vendu dans toutes les îles, surtout anglophones, et même en Afrique, en particulier au Nigeria et au Ghana, comme elle l'a dit. C'est le seul. Alors, il y avait des sections de l'UNIA dans presque tous les pays. Et à l'époque, il y a eu un lien, pas très, très 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 solide, mais il y en a eu des contacts entre Garvey et des députés noirs guadeloupéens et martiniquais, en particulier Egesip Legitimus, qui était le fondateur du Parti socialiste, on peut dire, guadeloupéen. Et aussi Gratien Candas, qui était lui plutôt réactionnaire, plutôt quelqu'un de droite, d'ailleurs qui votera les pouvoirs à Pétain par la suite. Il a été ministre, premier des premiers ministres noirs, il était ministre de la Marine, je crois, ou sous-secrétaire d'État à la Marine, Gratien Candas. Il y avait comme ça quelques politiciens noirs, une espèce d'élite noire qui apparaissait en Guadeloupe et en Martinique et qui, tout en étant, en ayant des opinions anti-ouvrières et anti-révolutionnaires et même souvent de droite, avait une sorte de conscience raciale, j'aime pas trop le mot, mais enfin bon. Et parce que c'était les premiers noirs et donc il y avait il y a eu un lien entre eux et Marcus Garvey sur cette question-là, surtout qu'est-ce qu'elles ont du fait qu'il faut que les Noirs s'affirment, etc. Il y a eu Gratien Candace en Guadeloupe, il y a eu, le nom me reviendra, un député maire de Saint-Satino, Maurice Satino, hein, qui était ce qu'on appelle encore d'ailleurs en Guadeloupe, en Martinique, les grands nègres. Bon, les grands nègres. Bon. Et c'était eux. Et donc il y a eu des échanges, il y a eu des lettres, il y a eu des, bon, même avec d'ailleurs il y a eu un mouvement international noir, un des premiers mouvements nationalistes noirs panafricains. Ils sont allés dans des congrès panafricains. Donc voilà. Maintenant des liens au niveau de la classe ouvrière elle-même, des syndicats ouvriers. Bon non, pas tellement. Il y en a eu un peu entre. Vous savez, ce qui est terrible aux Antilles, c'est que toutes les îles colonisées par la Grande-Bretagne ont toujours eu des contacts. Bon. Et les îles francophones, françaises, la Guadeloupe, la Martinique, étaient coupées. Hein. Bon, avaient des contacts avec les syndicats français, mais ne connaissaient absolument rien aux syndicats, à la situation des pays anglophones, jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce que chaque colonialisme a organisé sa sphère d'influence dans ses colonies. Hein, même maintenant, rares sont les Saint-Kitts, c'est à deux pas. Bon, la Dominique, on la voit quand il fait très beau. Maintenant, il y a des petits voyages de week-end, etc., des petites excursions. Mais à une époque, c'est tout juste si on savait que la Dominique existait, quoi. Bon, c'est entre la Guadeloupe et la Martinique, ouais. Bon, parce que c'était pas expliqué. Bon, c'était vraiment l'époque coloniale, quoi. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, sur le soutien en Europe. Oui, elle a répondu. Il n'y avait pas de soutien organisé, mais de fait, bon, dans la mesure où il y avait des grèves partout, des mouvements ouvriers partout, et il y avait quand même il n'y avait pas encore le Parti communiste guadeloupéen, mais il y avait l'embryon du Parti communiste martiniquais qui existait, qui avait déjà des liens avec le Parti communiste français. Donc, il y avait des liens avec entre les groupes communistes, oui. Mais il n'y a pas eu un soutien organisé comme il y en a eu à d'autres époques, bien avant d'ailleurs, à l'époque notamment de la Deuxième Internationale, où on a vu au début du siècle dernier Rosa Luxembourg et d'autres militants de la Deuxième Internationale soutenir les grandes grèves de la Guadeloupe et même elle a même fait un grand article après sur la catastrophe de Saint-Pierre, du volcan. Il y a eu 30 000 morts quand la montagne Pelée a explosé. Ben, on retrouve un article de Rosa Luxembourg que vous pouvez retrouver sur Internet, qui est très beau d'ailleurs, hein, où elle dénonce le colonialisme puisque c'était une catastrophe prévisible, hein, et tout a été fait pour laisser les gens sur place. Le gouverneur s'est lui-même sacrifié, on peut dire, pour la cause du colonialisme, puisqu'ils ont dit aux gens, non, c'est pas grave, vous pouvez rester, parce qu'il y avait des élections. Bon, il y avait des élections. Et ils ont tous péri, quoi, à part deux. Bon. Et Rosa Luxembourg, elle critique ça, et elle en parle. Et il y a eu, à cette époque-là, mais vous voyez, mais après, dans les années 30, c'était déjà, bon, le stalinisme, et donc il n'y avait pas autant de liens. Il y avait des liens, mais des liens au service de Moscou, hein, du stalinisme. Il n'y avait pas les mêmes liens qu'il y a eu avant, au début de la Deuxième Internationale.
Il y a d'autres questions, d'autres interventions?
Tu donnais la perspective d'un rapprochement entre la classe ouvrière américaine noire et la classe ouvrière guadeloupéenne, enfin de ces îles-là, des Caraïbes. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et à la lumière de l'actualité, justement, des émeutes à Baltimore, etc., est-ce qu'il y a eu des échos, y compris ici?
Donc, en fait, la situation des Noirs américains, qui sont des millions à vivre aux États-Unis, les Noirs, ils subissent le racisme, ils ont subi pendant plusieurs siècles la ségrégation, et encore aujourd'hui, le racisme est très fort et très puissant aux États-Unis. Et donc, avec eux, moi je m'inclus dedans puisque je suis de la Caraïbe, donc on a un passé commun parce qu'on est issu aussi nos descendants c'était des esclaves. Et donc le fait que nous soyons noirs et que qu'on est aussi opprimé par le système capitaliste, mais aussi par le colonialisme, parce qu'on a subi la domination des grandes puissances européennes, françaises, hollandaises, britanniques, etc., qui fait que on est quelque part un peu des révoltés. Et ça ne serait pas surprenant, vu tout ce qui se passe, comme tu disais, aux États-Unis. Quand tu regardes le plus grand mouvement, les grands mouvements qui ont eu lieu aux États-Unis, les grandes manifestations que Martin Luther King, Malcolm X, tout ça, comment ils ont su rallier à eux des millions de gens à leur cause. Mais c'est parti, en fait, des Noirs. Donc, ça prouve que c'est un peuple, en fait, qui a toutes ses chances de pouvoir faire prendre conscience non seulement du fait qu'ils sont victimes d'une société capitaliste, mais aussi pourrait montrer une autre voie pour l'avenir. Et par rapport à ce que tu disais sur nous, comment on voit les choses, je pense que ce qui se passe aux États-Unis, en fait, au niveau des sentiments, de ce que ressentent les gens, c'est sûr que les gens ils sont révoltés par ce qui se passe, par le fait que, surtout parmi la population, on est révolté par le fait que on tue des Noirs comme si c'était, des lapins, voilà quoi. Donc c'est sûr que ça, mais ça reste que des sentiments, c'est-à-dire que c'est juste un sentiment de révolte. Mais ces sentiments de révolte pourraient un jour justement aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ce que j'essaie d'exprimer, c'est que ces sentiments de révolte pourraient aller beaucoup plus loin et on pourrait effectivement aboutir à peut-être une petite étincelle qui pourrait jaillir, on ne sait pas d'où, et ça pourrait exploser et en cascade. Créer un grand mouvement, une grande évolution sociale. Voilà.
Alors, en ce qui concerne les rapports qu'il peut y avoir entre les Antillais, les Noirs américains, etc., il n'y en a pas, y a rien. Y a eu un mouvement à l'époque, dans les années 60, un peu partout dans le monde, mais là, il y avait le Black Power, le Black Power aussi, le mouvement Black Power en Caraïbe, encore plus dans la Caraïbe anglophone que francophone. Mais enfin, je me rappelle à l'époque, les lycéens, les étudiants, ils avaient les afros, c'était à la mode. Il y avait un état d'esprit. Les deux sportifs, les coureurs noirs américains ont levé le poing à Mexico en 68. Les jeunes, ils étaient contents, ils se sentaient fiers. Pareil, Mohamed Ali, avec ses déclarations contre le gouvernement, pro-noir, etc. Chaque match, c'était pour tous les Noirs des Antilles, ils se sentaient très fiers et il y avait un sentiment qui se manifestait. Mais en termes de lien avec les Noirs américains, non, il y a rien. Alors là, actuellement, c'est même pire, parce que on vit une période de plus de recul général des idées révolutionnaires, des idées contestataires, une progression, hélas, des idées réactionnaires, intégristes religieuses, etc. qui gagne du terrain, bon, des idées du Front National, les idées racistes, des idées, bon, moyenâgeuses, je dirais, hein, bon, si bien dans les pays arabes et notamment, on le voit. Donc, il y a une, c'est vrai qu'on sait qu'il y a une droitisation, hein, générale de la société actuellement, un recul des idées révolutionnaires, un recul du mouvement ouvrier, dû aussi à la trahison des partis de gauche, hein, qui sont plusieurs fois ont été au pouvoir et ont approuvé toutes les mesures anti-ouvrières, les licenciements, les fermetures d'usines, etc., et qui objectivement et même plus qu'objectivement, directement, ont été les alliés des gouvernements bourgeois et en fait de la bourgeoisie, hein. Donc ça aussi, c'est si on retrouve actuellement des ouvriers en grand nombre, en plus grand nombre au Front National, c'est aussi la conséquence de cette politique des partis de gauche. Donc actuellement, bon, bien sûr, les Noirs aux Antilles, ils entendent les nouvelles, ils sont révoltés, bon. Mais ça ne va pas plus loin. Alors évidemment, il y a toujours un sentiment qui existe, hein, un sentiment, comme elle a dit, d'oppression raciale, c'est vrai. Quand le soir de l'élection d'Obama, toutes les télés étaient allumées, tout le monde regardait et était en train de supporter Obama, savoir est-ce qu'il va gagner. Et, bon, on entendait des cris terribles quand il a été élu, on entendait des cris partout. Bon, les gens qui travaillaient le lendemain n'ont pas presque dormi de la nuit, vous voyez. Bon, c'est vrai qu'il existe, ce sentiment existe. Et c'est ce sentiment qui peut être demain un des levains porteurs de mouvements révolutionnaires, qui ne l'est pas maintenant. Qui peut l'être demain.
Bon, il peut y avoir encore une ou deux autres questions, si vous en avez, des interventions. Non ?
Ben, merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé à cet exposé. Et bonne fête.